Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, en ce 5 mars, ce samedi 5 mars, nous partirons pour l'année 1953 et le décès aujourd'hui, donc à date anniversaire du décès de Joseph Staline. Et nous nous poserons la question également dans notre rubrique culinaire, doit-on manger des insectes pour sauver et être beaucoup plus écologique? La réponse dans ce programme. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Dans les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, eh bien, le décès du joueur de cricket Shane Warne, célébrité donc du cricket, décédé en Thaïlande à l'âge de 52 ans. Et les États-Unis et leurs alliés ont vivement critiqué la Russie à l'ONU pour son bombardement et la saisie de la plus grande centrale nucléaire en Europe. On fait le point de tout ça dans notre journal. Et on commence donc avec le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a salué la décision de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes de guerre à la suite de l'invasion russe en Ukraine. L'enquête pourrait viser des hauts responsables, présumés responsables donc de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou encore de génocide. Monsieur Stoltenberg a déclaré également que l'invasion de son voisin par la Russie était une violation flagrante des droits internationaux, mais que l'intervention sur le terrain était exclu. On l'écoute.
En tant qu'alliés de l'OTAN, nous avons la responsabilité d'empêcher cette guerre de s'étendre au-delà de l'Ukraine, car cela serait encore plus dangereux, plus dévastateur. Nous avons donc clairement indiqué que nous n'entrerons pas en Ukraine, que ce soit au sol ou dans l'espace aérien ukrainien. Parce que bien évidemment, la seule façon d'instaurer une zone d'exclusion aérienne est d'envoyer des avions de chasse de l'OTAN dans l'espace aérien ukrainien et d'imposer cette zone d'exclusion aérienne en abattant des avions russes. Mais nous savons que si nous agissions ainsi, nous nous retrouverions avec quelque chose qui pourrait aboutir à une guerre totale en Europe, une guerre qui impliquerait beaucoup plus de pays et qui causerait beaucoup plus de souffrances humaines.
C'était Jens Stoltenberg, le chef de l'OTAN. Les États-Unis et leurs alliés ont vivement donc critiqué la Russie aux Nations Unies pour le bombardement et la saisie donc de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Certains exigeant que la Russie ne laisse pas une nouvelle attaque comme celle-ci se reproduire. Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de 15 membres, qui avait d'ailleurs été convoquée à la suite de la saisie donc de la centrale nucléaire en Ukraine, et elle se situe au sud-est du pays, que tout le monde, le monde avait évité de justesse une catastrophe nucléaire. On l'écoute.
By the grace of God, the world narrowly averted a nuclear catastrophe last night. We all waited to exhale as we watched the horrific situation unfold in real time. Russia's attack last night put Europe's largest nuclear power at grave risk. It was incredibly reckless and dangerous, and it threatened the safety of civilians across Russia, Ukraine, and Europe.
Une première pour l'ONU et au Conseil des droits de l'homme. Une résolution a été votée visant directement la Russie. Le texte condamne les violations des droits de l'homme et demande donc l'envoi d'une mission d'enquête, décision très symbolique, mais qui montre l'isolement grandissant de la Russie. Jérémy Lange pour RFI.
La résolution a été légèrement édulcorée. Plus question, par exemple, de mentionner les exactions au Donbass et en Crimée. Mais le texte demande tout de même le retrait des troupes russes et de leurs alliés de tout le territoire internationalement reconnu de l'Ukraine. Ce qui veut dire y compris dans les zones séparatistes. Des enquêteurs doivent récolter des preuves de violation des droits humains en vue de futurs procès, même si on ne sait pas encore quand et comment ils vont pouvoir travailler. Mais ce qu'il faut retenir de la résolution, c'est peut-être moins son contenu encore très théorique que le résultat du vote. Alors que la Chine, le Venezuela et Cuba s'étaient opposés il y a quelques jours à la tenue même d'un débat urgent sur l'Ukraine, ils se sont cette fois abstenus, laissant la Russie voter non avec seulement l'Érythrée. Après le vote, l'ambassadrice ukrainienne s'est adressée aux diplomates russes et biélorusses en les incitant implicitement à faire acte de dissidence.
Et c'était Jérémy Lange pour RFI. La crise humanitaire est grave, vous vous en doutez. Plus d'un million de personnes ont quitté l'Ukraine vers la Pologne ou encore la Roumanie. Écoutez d'ailleurs le témoignage de cette habitante de Kiev qui venait tout juste d'arriver en Roumanie.
Quand j'ai passé la frontière, j'ai été très surprise de voir autant de personnes qui m'accueillaient du côté roumain, qui littéralement me forçaient à prendre de la nourriture et me proposaient leur aide de toutes les manières possibles, pour mes bagages ou en m'indiquant le chemin vers le bus. Je ne m'attendais pas à un tel degré d'hospitalité et de volonté d'aider. Quand nous sommes arrivés ici, nous pensions aller à l'hôtel, nous en avons les moyens. À la réception, on nous a dit que c'était complet, mais qu'il y avait cet endroit, ici, une grande pièce chauffée où nous pouvons dormir. Là aussi, en arrivant, j'ai été étonnée de toutes les aides que l'on nous fournit. Pour le transport, on entend tout le temps des annonces, un bus pour l'Autriche, un bus pour l'Allemagne, pour Cracovie, pour Varsovie, etc. Ma sœur était là avec son chien et un vétérinaire s'est approché et lui a demandé si tout allait bien. Je veux dire, c'est vraiment très très touchant.
Le joueur de cricket Shane Warne est décédé en Thaïlande à l'âge de 52 ans d'une crise cardiaque alors qu'il était en vacances avec des amis. Shane Warne est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de cricket de toute l'histoire, crédité d'avoir contribué à tout simplement rajeunir la technique du spin bowling. Il est également le seul batteur à avoir marqué plus de 3000 points dans sa carrière et remporté le plus de séries des Ashes que tout autre Australien de toute l'histoire. La nouvelle est arrivée moins de 24 heures après la mort de son compatriote, un autre Australien, donc Rod Marsh, une autre légende du cricket qui a d'ailleurs secoué l'équipe de test australienne qui est actuellement au Pakistan. Shane Warne reste donc dans les mémoires comme un personnage unique avec une joie de vivre. L'agence de presse Reuters a rapporté que l'un de ses amis lui a pratiqué un massage cardiaque avant l'arrivée de l'ambulance. Shane Warne a donc par la suite été transporté à l'hôpital international thaïlandais et bien n'a pas pu être réanimé. La police thaïlandaise affirme que la mort n'est pas considérée comme suspecte. Le capitaine australien Pat Cummins a déclaré à Seven bien que Shane Warne était son héros quand il était petit, le joueur favori de tous les temps.
Guys in this team and squad who still hold him as a hero, their all-time favorite player, and the loss that we're all trying to wrap our heads around is huge. It's been a really tough day, a couple of days for Australian cricket after the passing of Rod. We just wish, you know, the best to both families, especially Shane's parents and his kids.
Voilà, donc 13h09, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Aux États-Unis, la Cour suprême a rétabli la peine de mort pour l'un des deux responsables de l'attentat du marathon de Boston. Jokhar Tanzarziev, est aujourd'hui âgé de 28 ans. Depuis Washington, les explications de Guillaume Nodin.
3 morts et 260 blessés, c'est le bilan de l'attentat à la bombe perpétré par Jokhar Tsarnaev et son frère aîné Tamerlan, tué lui dans la traque menée les jours suivants contre les deux coupables. Car la culpabilité de Jokhar Tsarnaev, reconnue pour 27 chefs d'accusation, n'a jamais été remise en question. Ce qu'il a été, c'est la procédure et notamment la sélection du jury qui, selon la cour d'appel qui avait suspendu le verdict, n'avait pas été menée avec suffisamment de soin pour s'assurer que les jurés n'avaient pas été influencés par le large écho médiatique de l'affaire. De plus, les mêmes juges avaient estimé que Tamerlan Tsarnaev Tsarnaïev avait déjà tué et que son frère cadet aurait payé en quelque sorte pour son frère, en réalité beaucoup plus dangereux que lui. Des vices de procédure qui n'ont donc pas été retenues par la Cour suprême. Elle rend une décision partagée qui correspond à son actuelle ligne de fracture, 6 conservateurs contre 3 libéraux. C'est le juge Clarence Thomas qui rédige les arguments de la majorité. Il estime que le droit de Djokhar Tsarnaïev à un procès équitable et impartial a été respecté. Les juges libéraux estiment quant à eux que la culpabilité de Tamerlan Tsarnaïev dans les meurtres précédents aurait pu changer l'opinion du jury si ces éléments avaient été retenus. Un seul, en revanche, fait part de ses doutes sur le fond quant à la peine de mort. C'est le juge Stephen Breyer, qui part bientôt à la retraite.
Et c'était Guillaume Naudin pour RFI. Allez, 13h10, on va parler de politique en France. La course au parrainage pour l'élection présidentielle est officiellement terminée depuis hier soir, 18h, heure de Paris. Les listes ou la liste définitive des candidats sera déposée lundi. Et sans grand suspense, le président sortant, Emmanuel Macron, est candidat à sa réélection. Et après une lettre adressée aux Français dans la presse régionale, c'est par une vidéo qui s'est donc adressée aux Français. Valérie Gasse.
Palais de l'Élysée, le 3 mars, Emmanuel Macron et son chien Nemo apparaissent à l'image. Ils montent un escalier, la caméra les suit jusque dans le bureau du président et une conversation s'engage avec le réalisateur de la vidéo, Stéphane Gillot. Gros plan sur Emmanuel Macron qui s'explique.
J'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir et dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français.
Le ton est posé, la musique enveloppante, les images léchées. Elles donnent à voir un président au travail, autrement dit un candidat pas comme les autres, sous le poids des responsabilités, mais qui dit vouloir jouer le jeu de la campagne.
Moi, j'arrive à cette élection avec une... D'abord en étant déterminé, en voulant continuer à bouger les choses, à préparer l'avenir pour nos enfants. Ensuite, en étant très humble, parce que je sais que rien n'est écrit.
Une manière de répondre à ceux qui l'accusent de vouloir enjamber la campagne et d'afficher sa posture d'humilité, mais aussi de se montrer proche, accessible, d'essayer de créer le lien. C'est le premier épisode d'une série vidéo diffusée sur les réseaux sociaux intitulée « Le candidat ». Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français chaque vendredi à 18h jusqu'au premier tour. Cette fois, la campagne est lancée.
Et c'était Valérie Gasse pour RFI. Alors Emmanuel Macron, candidat, en face, on multiplie les offensives. Aurélien Devernois.
Un site 108.fr dédié à la critique du bilan Macron du côté du Rassemblement National, une avalanche de visuels sur les réseaux sociaux pour les Républicains, un message vidéo d'Éric Zemmour et une cohorte de communiqués sortis dans la seconde suivant la parution de la lettre de candidature du chef de l'État. Les aspirants à la présidence piaffaient d'impatience à l'idée de pouvoir se mesurer à Emmanuel Macron qui caracole en tête des intentions de vote. Le débat démocratique projet contre projet va enfin pouvoir se tenir, lance ainsi la socialiste Anne Hidalgo. Depuis des semaines, toutes et tous n'ont que le chef de l'État à la bouche, critiquant son mandat, l'appelant au débat, avec l'espoir de s'imposer comme la candidature d'alternative, celle que les Français choisiront pour figurer dans un second tour où le président sortant semble déjà avoir réservé sa place. Mais encore faut-il qu'il y ait débat dans un espace médiatique saturé par la guerre en Ukraine et où Emmanuel Macron va bénéficier au maximum de son statut de chef d'État. L'inquiétude est réelle dans les oppositions et notamment à l'extrême droite et chez Jean-Luc Mélenchon où l'on craint l'impact des ambiguïtés passées vis-à-vis de la Russie. Pas sûr que le tous contre Macron suffise à ralentir la course du président vers un second mandat.
13h13, coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 32 degrés, Adélaïde 25, Melbourne 21, il fera 25 à Hobart, 25 à Canberra également, 28 degrés à Sydney, 30 degrés à Brisbane, 36 degrés à Cairns et 34 degrés à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 5 mars. Le joueur de cricket Shane Warne est décédé à l'âge de 52 ans alors qu'il était en vacances en Thaïlande. Et on l'a vu dans ce journal également, les États-Unis et leurs alliés ont vivement critiqué la Russie à l'ONU pour son bombardement et la saisie de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et en France, c'est officiel, Emmanuel Macron est candidat à sa réélection. 13h14, courte pause et on passe au sport tout de suite après ça.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench. Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. télécharger émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Il est de retour, c'est Stromae, bien entendu, cette chanson « L'Enfer » qui fait partie de son tout nouvel album. Vous allez l'entendre pas mal ce mois-ci sur les antennes de Radio SBS parce que c'est une super chanson et il fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. Il est 13h et presque 22 minutes. On fait une courte pause et direction l'année 1953, tout de suite après ça.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play. Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Nous sommes le 5 mars et dans notre rubrique rétro, aujourd'hui nous partons eh bien, direction l'année 1953. Le 5 mars 1953 s'éteignait à Moscou Joseph Staline. Staline qui a dirigé d'une main de fer l'Union soviétique pendant près de 30 ans de la mort de Lénine en 1924 à sa propre disparition. Donc le 5 mars 1953, victime d'une attaque cérébrale. Un règne sans partage au nom du communisme marqué par les purges, la terreur, mais également un engagement et le sacrifice des troupes soviétiques contre Hitler et le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Le 5 mars 1953, la mort de Staline, c'est notre rétro sonore avec les archives de l'INA et des extraits du film L'ombre de Staline et Apocalypse Staline.
Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort.
Staline.
He doesn't forget.
We were promised our...
Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Pendant ses 28 ans, il se montra l'une des figures maîtresses d'un univers en état de crise.
Qui est Staline? Le rempart contre le nazisme? Le petit père des peuples? Le criminel de masse? Staline a dit... La mort résout tous les problèmes. Pas d'homme, pas de problème.
À Téhéran et à Yalta, il devait être en même temps que l'un des grands vainqueurs, l'un des constructeurs du monde d'après-guerre. Et la conférence de Potsdam marqua l'heure la plus haute de son destin. Autour de lui, cependant, les compagnons de sa jeunesse, les vieux bolcheviques, disparaissaient. Entre Molotov et Malenkov, les dauphins présomptifs, il montrait aux funérailles de Kalinine les signes de fatigue imprimés par une vie de soucis, de combats et de drames. Mais si ces dernières années, la fatigue avait semblé l'atteindre, il n'en remplissait pas moins la charge écrasante de diriger les destinées du monde soviétique.
1892, la première photo de Staline, enfant de cœur, à 14 ans. Il cachera les nombreuses infirmités de son enfance, ses pieds palmés, les maladies qui ont tué ses deux frères, la variole qui a laissé sur sa peau des traces indélébiles que les maquilleurs du Kremlin s'efforceront de masquer. Son bras gauche est plus court que l'autre. Il boite depuis qu'une charrette s'est renversée sur lui, à l'âge de 12 ans.
Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne ? Divinisé par ses fidèles, onni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs ?
Tous ces sujets vivent dans la peur. Ils doivent applaudir le tyran de très longues minutes. Staline s'impatiente. Il sort sa montre. Pourquoi ? Staline et ses complices ont forgé sur son passé, sur ses crimes, un mensonge planétaire qui continue à empoisonner les esprits.
Voilà mon rapport sur le miracle soviétique.
Quelle réponse donnez-vous ?
Je n'en ai pas.
Les caisses du Kremlin sont vides. Et pourtant, ils dépensent sans compter.
Alléo ?
Paul, j'ai besoin de ton
aide pour décrocher une entrevue avec Staline.
Gareth, je t'ai appelé plusieurs fois.
Écoute, c'est de ça qu'il faut absolument que je te parle. J'ai trouvé un gros morceau. Je peux démonter toute leur histoire.
Paul ?
Paul Kleb est mort, tué par des voleurs il y a 3 jours.
Que voulez-vous ?
Ce dont personne n'ose parler.
J'ai vu le corps, 4 balles dans le dos.
Et vous refusez de croire à un vol. Sur quoi travaillait-il ?
L'Ukraine.
Le trésor de Staline.
Voici le parcours de ce jeune séminariste qui va devenir, comme dans les romans russes, un possédé. Personne peut-être n'a mieux défini Staline que le général de Gaulle, qui l'avait rencontré à Moscou en 1944. Dans ses mémoires de guerre, de Gaulle écrit « Staline était possédé de la volonté de puissance, rompu par une vie de complot, à masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger. Tout chez lui était manœuvre, méfiance et obstination. La révolution, le parti, l'État, la guerre lui avaient offert les occasions et les moyens de dominer.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
J'ai pas envie d'être fleur bleue, j'ai pas envie d'être fleur bleue, moi. Je vois plutôt tout en gris. Je vis dans un champ, une prairie, et mon chant ressemble à un cri, et mon chant ressemble à un cri.
Et c'était Luciole avec cette chanson Un cri qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. 13h32, courte pause. Et après, dans le reste de l'émission, on va se poser la question. On sait que manger des insectes peut être bon pour la planète, mais qu'en est-il des insectes australiens ? On voit tout ça avec Audrey dans quelques instants.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. On nous le dit depuis longtemps, manger des insectes, c'est bon pour la santé et pour la planète. Mais saviez-vous que l'Australie est particulièrement bien placée pour être un leader dans l'industrie des insectes comestibles? On en parle avec la docteure Rocio Ponceres, une scientifique avec le CSIRO qui s'intéresse aux bestioles. Quand on pense insectes comestibles, on a surtout des images de l'étranger. Les sauterelles croustillantes épicées en vente dans les marchés du Mexique ou un dessert d'œufs de fourmis populaire en Thaïlande. Mais la docteure Rocio Ponceres, qui est scientifique pour le CSIRO en Australie, nous rappelle que le pays a une très longue histoire en lien avec les insectes comestibles.
People here in Australia, indigenous people and First Nations peoples have eaten insects for tens of thousands of years. For example, the bogong moth is one of the most known ones as traditional ones.
Grâce aux aborigènes d'Australie, on sait qu'il y a au moins 60 types d'insectes originaires du pays qui sont comestibles, et il pourrait y en avoir bien plus. La docteure Ponce Reyes et ses collègues s'intéressent aux insectes comme nourriture pour plusieurs raisons. D'abord, les insectes sont bons pour nous.
They're healthy. They have high protein contents. They have good fats. Crickets, for example, they have lots of omega-3, even more than salmon. They have other minerals, for example, iron. Some insects have folic acid. They have different types of, depending on the insect, they could have different types of vitamin. For example, the green tree ants, they are very high on vitamin C. Other insects have vitamin 12, B12.
L'empreinte écologique des insectes est minimale, ce qui permettrait de nourrir beaucoup de personnes avec le moins d'impact possible.
One of the biggest problems for biodiversity is habitat loss, right? Like clearing habitat for growing food. If we farm insects, we can farm them close to the city. So we don't have to clear new habitat. We can grow them in shipping containers. And if we need to keep them at certain temperature levels or humidity, we can use solar energy to reduce our carbon input. So they need less food. To grow 1 kilogram of protein, of insect protein, you need 2 kilograms of food. So they're very good at converting their food into protein. So they're very efficient. And their waste can be used to fertilize gardens. And also we could feed them food scraps. So they will help us with our waste management.
L'Europe et les États-Unis sont les leaders de l'industrie des insectes comestibles et l'Australie est loin derrière. Mais ça ne devrait pas être le cas. Le CSIRO a publié l'an dernier un plan d'action.
The number of different species, like the six, there are at least 60 species that we know that can be edible, but there could be some lots of more. We have the tradition with because First Nations peoples used to eat insects as well, like before. And so we have that knowledge. And Australia has really great research capacity into our agricultural areas and biodiversity, everything. So if you combine all these great research opportunities with the knowledge of Indigenous people, with the species diversity, this can lead to new opportunities and to help the industry grow. But it's not only for humans. Like, these insects can also be, if we are not ready to as humans to eat insects, like there's really good food for feeding, like in fish farms, like in aquaculture. This is one of the areas that is growing a lot, like feeding insects for in fish farms, or for chickens, or even for our pets.
Pour se tailler une place dans l'industrie des insectes comestibles, l'Australie doit investir davantage.
Producing insects at the moment is still a bit expensive because a lot of the labor is manual. So part of our research showed that to help this industry to develop, we need more investment in new technologies, artificial intelligence, using more robots. By producing more insects, that will reduce the cost. The demand is growing, so it's kind of a chicken and egg problem.
La docteure Ponce Reyes insiste aussi qu'il est primordial de protéger la propriété intellectuelle des aborigènes.
At the moment, something that is missing from the edible insect industry, we need to increase the collaboration and the participation with Indigenous peoples. But it's not just the collaboration, it's also like we need to encourage Indigenous-led insect enterprises as well. But the other very important thing is to protect the Indigenous knowledge, the Indigenous IP.
Pour nous, les consommateurs, c'est encore difficile de trouver des insectes comestibles, disons à votre supermarché local, mais plusieurs sites web australiens font la livraison.
So you can buy crickets and mealworms roasted, or little cricket or mealworm packs flavored, like snack packs with rosemary, with chili, with garlic, different flavors. Can buy cricket powder that you can use to bake anything. I use cricket powder to bake bread or banana bread, cupcakes. My daughter loves little cupcakes like with cricket powder. You can really taste the powder, but it's have a bit more protein and different nutrients. But you can also buy products that are already made with cricket, enriched with cricket, for example, pasta or corn chips or granola, duca. So there's a whole range of things that you can find. And there are also little candies with little black ants.
Quand elle cuisine, la docteure Ponce Reyes aime mélanger la cuisine de son pays d'origine, le Mexique, avec les ingrédients de son pays d'adoption, l'Australie.
Yeah, I like experimenting in very different ways with insects. But I do a lot of mixture of Mexican cuisine with Australian ingredients. So for example, I really like the quesadilla, like a tortilla with melted cheese and some roasted crickets inside, and adding some chili, like some salsa. That's delicious. And if you know the green salsa from Mexico with the green tomatillas, so that green salsa with green tree ants is the best. It's really good. Like the you know, that green salsa is very zesty. It's very, like green tomatoes, the green tomatillas are very lemony, well, very acidic. And with the green tree ants, it's so good.
La docteure Rocio Ponce Reyes prendra part à une discussion sur les insectes lors du festival Womb Adelaide le 14 mars prochain. Vous pouvez aussi visiter le site web du CSIRO pour découvrir le plan d'action pour l'industrie des insectes comestibles. Ou même commander votre poudre de grillon ou vos bonbons aux fourmis en ligne sur le site web de Circle Harvest. Évidemment, ils sont faits avec des insectes 100% australiens.
J'ai les armes que j'ai, des couleurs qui prennent l'eau, la faute à mon prénom, et depuis le...
Les armes que j'ai les armes que j'ai.
Et c'était Noé Prezzo, un nouvel artiste qu'on a découvert très récemment avec cette chanson Les armes que j'ai. 13h45, courte pause, et eh bien on va partir tout de suite après à Adélaïde. Et que se passe-t-il à l'Alliance française d'Adélaïde, tout de suite après ça.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Allez, on va faire un détour cette semaine et ce mois-ci avec l'Alliance française d'Adélaïde, avec Raphaël Delaunay. Bonjour.
Bonjour Christophe, comment allez-vous?
Ça va impeccable, et puis c'est toujours un bon moment quand il y a le festival qui arrive, c'est toujours un bon signe. Bon, ça veut dire qu'il y a l'hiver qui arrive, c'est pas forcément ce qui est le mieux, mais par contre au niveau culturel, c'est quand même incroyable ce qui se passe en Australie.
Alors, à Adélaïde, c'est la meilleure saison. Aujourd'hui, ils annoncent plus de 30 degrés, grand ciel bleu, et c'est un festival de culture qui se...
Arrête.
Ouais, je sais. donc, effectivement, on a, à la fin de la semaine, l'Adélaïde Festival qui va démarrer, et qui va notamment s'ouvrir sur le Coq d'Or, mis en scène par Barry Koski, et qui est une coproduction entre l'Adélaïde Festival et le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. C'est un partenariat qui a été signé sur 3 années, pour chaque année une coproduction entre ces deux grands festivals majeurs de la scène culturelle internationale. Et donc l'ouverture sera ce vendredi. Et puis il y a le Fringe qui a déjà démarré avec plein de spectacles francophones. Et puis il y a Womb Adélaïde, le grand festival de musique qui démarre dans une semaine.
D'accord, ça c'est vraiment, on sent que c'est vraiment le focus, hein, le coup de projecteur sur Adélaïde à ce moment de l'année, à peu près tous les ans. Est-ce qu'on peut parler du sentiment post-Covid parce qu'il y a quand même ce renouveau un petit peu à travers les autres régions. On l'a vu, hein, à Melbourne, on l'a vu aussi à Sydney. Le festival, c'est vraiment un des signes post-Covid. Est-ce que c'est le même sentiment pour vous à Adélaïde, à la fois le festival du film français de l'Alliance française et le Womb Adélaïde? Ça veut dire qu'on tourne un peu la page quand même, on l'espère en tout cas.
Alors, d'un état à l'autre, évidemment, l'expérience est très différente. L'année dernière, à Adélaïde, on a eu la chance de réaliser notre meilleure année pour le French Film Festival. Et malgré le fait que les salles de cinéma étaient capées à 50%. Ce qui, pour moi, en fait, dénote vraiment un amour des Adélaïdiens pour tout ce qui est français et notamment le cinéma français. Donc, c'était vraiment une grande chance. Au niveau des festivals, cette année, la politique est un peu particulière pour pouvoir participer à l'Adelaide Festival ou au Womb Adelaide. Il va falloir prouver sa vaccination. Voilà, c'est la politique de chacun de ces festivals. Mais c'est vraiment une grande chance de pouvoir assister à des spectacles qui viennent du monde entier, notamment pour l'Adelaide Festival. Et pour ça, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une énorme chance et Adelaide est l'endroit où être au mois de mars.
Alors parlons un petit peu de la programmation. Qu'est-ce qui vous fait vibrer sur ce festival cette année? Est-ce qu'il y a des coups de cœur spécifiques qui, pour vous, vraiment, c'est dur de dire sortent du lot, mais ouais, on va le dire quand même. Est-ce qu'il y a certains films qui, pour vous, personnellement, sortent du lot?
Alors, il y en a. Pour moi, personnellement, je parlerai volontiers de La Traviata, My Brothers and I, le titre français étant Mes frères et moi, qui est un drame qui se passe dans le sud de la France. C'est un drame, mais avec beaucoup de choses positives aussi. L'histoire de plusieurs frères qui vivent ensemble et dont la maman est malade. Et chacun a sa trajectoire et un focus plus particulier sur le plus jeune de cette fratrie, qui découvre l'univers de la musique et sa voix et ce qu'il peut réaliser au travers de sa voix. En ce sens-là, c'est un rapport avec sa prof de musique, c'est un rapport dans l'évolution des relations fraternelles que je trouve vraiment très touchant.
Moi, j'en ai beaucoup entendu parler de ce film, à la fois un film poignant et touchant, ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur, en fait?
Alors, j'ai aussi en coup de cœur Entre les vagues, qui est un film de Anaïs Volpé, alors qui est aussi un drame, mais ce que je retiens beaucoup de ce film, donc c'est une histoire d'amitié entre deux filles qui veulent percer dans le théâtre. Honnêtement, la façon dont le film traite et filme leur amitié est absolument incroyable. Et ça ne peut que gonfler le cœur et amener, en sortant du film, à regarder toutes ces relations amicales et vouloir les vivre à 2000%.
Ça symbolise quand même pas mal le cinéma français, quand même, quand on y réfléchit. Et c'est très touchant, le cinéma français, sous ces angles-là. On arrive quand même à montrer des histoires à la fois d'amour, des histoires tristes, des histoires sentimentales, juste un tout petit peu différemment, en fait.
Oui, alors c'est toujours partagé de beaucoup d'émotions. Il faut avouer que cette année, dans l'ensemble de la sélection, il y a beaucoup de films qui sont très forts, qui sont plutôt catégorisés dans les drames. Mais pour chacun d'eux, je trouve quelque chose de positif qui en ressort aussi au travers de drames et d'histoires tragiques, mais qui font aussi ressortir tout ce qu'il peut y avoir de beau dans les relations humaines, et c'est ce que j'ai envie de retenir en fait dans tous ces films. C'est le cas pour ce film Entre les vagues, c'est le cas pour La Traviata, c'est le cas également pour Ouistreham, qui est un film qui parle des femmes de ménage et de la précarité en France, et avec la démarche d'une écrivaine qui veut enquêter et pouvoir mieux comprendre et mieux parler de cette partie de la vie. De la même manière, des choses extrêmement positives et très belles qui ressortent dans les relations humaines, et on ne peut que être touché, en tout cas, par ce film.
D'accord, allez, juste comme ça, pour terminer sur le festival en lui-même, vous nous rappelez les détails, l'ouverture, la date, le film qu'on peut voir, où on peut avoir des billets sur Adelaide, parce que l'ouverture d'un festival, c'est quand même quelque chose de magique.
C'est magique, je vous le confirme. Pour Adelaide, le festival va ouvrir le 24 mars. La soirée d'ouverture sera à Palace Nova East End, dans le centre-ville. Et le festival se terminera le 26 avril. Ensuite, on aura encore 2 jours, les 27 et 28, pour les films qui ont eu le plus de succès pendant le festival, pour donner l'occasion aux retardataires de se rattraper. Mais n'attendez pas, parce que on ne sait pas encore quels seront les films que l'on mettra en avant dans ces 2 dernières journées. Une chose aussi importante pour le South Australia, pour la première fois, le festival va s'étendre à la ville de Victor Harbour, au sud de la Florio Peninsula. Ça, on est vraiment très contents. Ce sont 2 journées spéciales, le 4 et le 11 avril, avec une sélection de 4 films. Il y aura Au revoir, Monsieur Hoffman, La Traviata, Les Illusions perdues et La Brigade. quatre films dont on pense qu'effectivement ils pourront trouver un public et un accueil très positif à Victor Harbor.
Ouais, tout à fait. Au revoir Monsieur Hoffman avec un incroyable, alors oui, il y a Daniel Auteuil, mais un incroyable Gilles Lelouch dedans, faut le dire.
Tous les acteurs, honnêtement, sont incroyables et ce qui, je trouve, est particulièrement réussi dans ce film, c'est la façon dont les personnages évoluent. Aucun n'est linéaire et on peut être surpris à chacun des moments du film. Ouais, et pour ça, ça donne une profondeur au personnage et une réflexion sur cette période extrêmement sombre de l'histoire qui est vraiment intéressante et qui amène à s'interroger aussi sur soi-même.
Bien, absolument, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres activités hormis Women Aid et le festival? C'est déjà quand même pas mal pour vous. je vais pas vous mettre un peu trop de pression, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a des cours, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Adelaide dans la vie de tous les jours à Adelaide et à l'Alliance française?
Alors, évidemment, on est en plein dans les cours, on est au milieu du trimestre 1, donc on va doucement préparer le trimestre 2, avec, j'espère, quelques nouveaux cours qui pourront ouvrir. Pour ce trimestre-ci, peut-être quelques points d'attention. Le premier, c'est un cycle de conférences sur le cinéma français, qui sont animées par Ben McCann, qui est responsable du département du français à l'Université d'Adélaïde et qui est spécialisé sur le cinéma français, l'histoire du cinéma français. Donc, il retrace un peu l'histoire du cinéma en France et justement apporte des éclairages selon les différentes périodes et ce qui fait la spécificité du cinéma français. Donc la première conférence a déjà eu lieu, la prochaine est le 11 mars, donc la semaine prochaine, et la dernière aura lieu le 22 mars. Ben est un puits de connaissances et c'est juste passionnant de discuter avec lui autour du cinéma et il pourra donner du coup aussi beaucoup de conseils sur la sélection de cette année. Ensuite, on est extrêmement content à l'Alliance d'Adélaïde parce que nous avons depuis plusieurs mois maintenant engagé un projet de rénovation de notre bibliothèque qui avait grand besoin de rafraîchissement. Et on va inaugurer ce nouvel espace ce week-end, ce samedi, avec un événement pour les familles. Pour les enfants, il y aura une lecture de contes d'un conte de Nouvelle-Calédonie car nous avons eu le très généreux soutien du délégué de Nouvelle-Calédonie à l'ambassade de France, Monsieur Yves Lafoy, qui nous a permis de pouvoir acquérir un fonds spécialisé sur la Nouvelle-Calédonie pour mettre en avant cette destination sous toutes ses formes, évidemment touristiques, avec la chance depuis l'Australie qui est de l'autre côté de la France métropole, mais qui a des territoires francophones et donc la Nouvelle-Calédonie à côté, mais aussi sur des questions de culture, les cultures kanak notamment, tout ce qui est environnement, jeunesse, donc beaucoup de thématiques qui sont abordées au travers de ce nouveau fonds qui est désormais disponible à l'Alliance d'Adélaïde. Mmh. Et puis on va organiser une grande donation des livres que nous ne conservons pas dans le fonds. On est un peu limité par la place, donc on a fait des choix de livres dont on pense qu'ils sont intéressants pour nos membres et puis d'autres qu'on aura grand plaisir à offrir à tous nos membres samedi après-midi à partir de 12h30.
D'accord, bah écoutez, on vous souhaite une bonne ouverture de votre bibliothèque et puis un bon mois qui s'avance plutôt chargé devant vous. Merci Raphaël.
Merci beaucoup Christophe.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
C'était bien entendu le son de Benjamin Biolay, Comment est à peine, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois. 13h59, rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le joueur de cricket Shane Warne qui est décédé en Thaïlande à l'âge de 52 ans. Et les États-Unis et leurs alliés qui ont vivement critiqué la Russie à l'ONU pour son bombardement et la saisie de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Voilà, on arrive à la fin de notre programme en français sur Radio SBS. Je vous rappelle que le prochain programme en français sera avec Marianne Murat, demain à 13h. Et je vous retrouve mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.